Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel. Tout de suite dans Ensemble, nous accueillons trois invités venus parler de l'association des anciens résistants et des amis du maquis de Plainville. Nous accueillons Yves Brissard, président de l'association, bonjour. Annette Brissard, secrétaire de l'association, bonjour.
Bonjour.
Et Martial Lecomte, maire de la commune de Marolles-les-Buis, bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, si vous pouviez nous expliquer comment est née cette association.
Alors, l'association des anciens résistants est issue, on peut le dire, au début de ce siècle de la volonté de représentants de la commune, d'une part, et puis de particuliers, d'autre part, de façon d'entretenir la mémoire du lieu et la mémoire des événements qui se sont déroulés en ce lieu. C'est une association qui a, en parallèle avec l'association des anciens résistants, a mené donc, on peut le dire, même si on abuse un petit peu de ce vocable, un devoir de mémoire. Le temps passant, les anciens résistants disparaissant, il en restait bien peu. Lorsque le président d'alors, M. Georges Gourcy, ancien résistant lui-même, opta pour une fusion entre l'association des anciens résistants et celle des amis du maquis de Plainville. L'affaire se fit, disons, administrativement, tout en continuant de la même façon à assurer la mémoire. Mais en réalité, il s'agit de pérenniser la mémoire de ce lieu par des interventions sur place, des interventions au niveau des jeunes essentiellement, et des interventions dans les établissements scolaires.
Quel genre d'intervention ? C'est des visites ? Vous faites venir...
Ce sont des visites. Ce sont des visites commentées. On ne peut pas parler du maquis sans parler de la résistance antérieure au maquis. On ne peut pas parler de la résistance sans parler d'histoire. C'est donc une sorte de mémoire de cette époque qu'il faut évoquer auprès des jeunes et auprès des visiteurs en particulier.
Et qu'est-ce qui vous a donné, à vous deux d'ailleurs, l'envie de transmettre
L'envie, oui. Nous étions professeurs, on peut dire que ça incite à communiquer, d'une part, à transmettre, d'autre part. Mais je pense que, moi j'ai pu constater dans ma carrière professionnelle, bien que n'étant pas professeur d'histoire, j'ai pu constater que les jeunes, si on savait les y intéresser, étaient partie prenante. Et on en a des vérifications permanentes. Alors on s'est investi dans ce devoir de mémoire, en quelque sorte. Bon, j'ai moi-même beaucoup d'antériorité dans ce domaine, mais je dirais à titre privé, non professionnel, et nous continuons de la même façon.
C'est-à-dire, comme nous avons rencontré les résistants, à l'époque, quand nous sommes rentrés, quand on a fait les premières... interventions, ils étaient encore une bonne quinzaine. Donc on a lié des liens d'amitié profonde et on a senti qu'ils attendaient de nous qu'on continue à faire perdurer ce qu'ils avaient fait, de transmettre cette mémoire.
Donc vous parliez des nouvelles générations, donc vous faites des interventions à l'école. Est-ce que vous essayez aussi d'intégrer, est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intègrent dans votre association ?
Je peux répondre affirmativement aux deux questions, à savoir que dans les établissements scolaires, disons qu'à partir du cours moyen, où l'histoire commence à être un peu présente dans les programmes, jusqu'aux niveaux les plus élevés, bac et au-delà, pour des gens qui sont prenants. Mais, je l'ai déjà dit, et j'évoquais récemment cette chose, lors d'une réunion en préfecture... je me suis élevé contre certaines allégations en disant que les jeunes, il faut aller à leur contact, à leur devant, Et ça marche très bien.
Reste-t-il des survivants de ce maquis aujourd'hui ?
Oui. Alors, si on prend les statistiques, au maquis, ils étaient 172. Sur ces 172, le temps a fait son œuvre, hélas, deux persistent de notre jour. Un va avoir 98 ans, actuellement il vit à Sainte-Maxime, et, chose beaucoup plus curieuse, il vit avec des balles allemandes qu'il a reçues ce 11 août 1944 lors de la libération de Nogent-le-Rotrou et qui n'ont pu être extraites. Le second, qui est un habitant proche de la Loupe, et va avoir, lui, 96 ans. Mais ce sont les deux derniers. Alors évidemment, il entre en ce moment dans nos fonctions, si je puis dire, de les accompagner à leur dernière demeure.
Ah, merci beaucoup. Monsieur le maire, au début, Monsieur Brissard parlait de ce lien quasiment dès la création de l'association avec la mairie de Marolles-les-Buis. Donc ce lien est toujours présent. Quelles sont exactement les natures de ce lien ?
Effectivement, ce site qui est aujourd'hui est un site ouvert au public, donc appartient à la commune, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, il est reconnu comme lieu de mémoire depuis 1999 par l'ONAC, mais il y a quand même une histoire qui a précédé ça pour en arriver là. Le site a été acquis par la mairie en 1990. Et auparavant, il était privé jusque-là. Le propriétaire de l'époque voulait vendre le site. Le bois, en fait, parce que c'est quand même un maquis, donc c'est une petite forêt. Et un propriétaire privé avait fait une offre pour l'acquérir. Et donc, à partir de ce moment-là, des gens de la commune ont découvert que le site était grillagé, clôturé. Ça voulait dire que ce site ne serait plus accessible à qui voulait bien rejoindre le lieu de mémoire. Et du coup, il a été engagé une procédure par la commune, auprès du conseil départemental, pour acquérir ce site, donc en 1990.
Ils se sont enfuis dans la nuit, pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne, et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis.
Vous écoutez toujours Radio Grand Ciel. Sur le plateau de Ensemble, nous accueillons toujours nos trois invités, Yves et Annette Brissard, ainsi que Monsieur Martial Lecomte, maire de la commune de Marolles-les-Buis. Nous parlons aujourd'hui de l'association des anciens résistants et des amis du maquis de Plainville. Le maquis de Plainville, donc, qui se situe dans la région de Nogent. D'ailleurs, qu'est-ce qui reste en fait sur le site de ce maquis ?
Alors, sur le site de ce maquis, donc évidemment, il y a une grotte hein, là, et je pense que M. Brissard en parlera mieux que moi. Et il y a aussi une stèle qui a été érigée en 1947, justement à la mémoire des anciens résistants, des résistants de l'époque, et qui avait attiré un public nombreux, puisque je pense qu'ils étaient quelques milliers à l'époque pour commémorer la fin de la guerre et puis en même temps l'installation de cette stèle.
Annette, vous vouliez...
Oui, alors moi je voulais dire que quand j'ai fait les recherches pour le livre, là, en fait j'ai trouvé qu'en 1947, en juillet 47, ils ont fait une grande cérémonie, mais ça a débuté en janvier. Les anciens résistants se sont rassemblés en une association des anciens résistants et ont lancé un appel à tous ceux qui étaient intéressés pour participer parce que c'était une grande fête qui revenait très cher. C'était après la guerre, les gens n'avaient pas... Mais ils ont fait des demandes de dons. Et pendant plusieurs semaines, sur le journal local, étaient affichées toutes les listes des donateurs avec les sommes que chacun donnait. Enfin, ça a été vraiment un élan de générosité pour rassembler en 1947 tous ces gens-là. Et donc ensuite, ils ont fait une cérémonie avec les grandes autorités du département et même au-delà. et avec plusieurs milliers de personnes, avec des remises de médailles aux anciens du maquis de Plainville, aux principaux responsables. Et ils ont même fait venir de Paris Sylvia Montfort et puis Sinclair, Clavel, qui a été chef de la résistance en Eure-et-Loire à cette époque-là. Et donc, il était présent aussi en 1947, et sa femme, Sylvia Montfort, a récité des textes avec Alain Cuny, qui était aussi un acteur connu à cette époque-là. Et c'était vraiment un grand rassemblement de gens, et vraiment avec une ferveur importante.
Donc des milliers de gens venus du département et même au-delà.
Oui, parce que là, ils ont même loué des cars. J'ai trouvé que tous les circuits, ça nous paraît bizarre maintenant, ils ont même fait des garages de vélos avec garde de vélos pour que les gens, à l'époque, ils n'avaient pas les voitures, ils sont venus à vélo, c'était gardé, enfin, et ça leur a coûté vraiment, ça a été une cérémonie très importante, quoi. Et alors, après la cérémonie, il y a même eu un grand bal à Marolles-les-Buis avec toujours la même ferveur. C'était vraiment un rassemblement du peuple par rapport à ce qu'avaient fait ces gens-là, quoi. C'était...
Alors, Monsieur le Comte, vous êtes le maire actuel de Marolles-les-Buis, on le rappelle. Se lier avec cette association, c'est une manière de rester dans la continuité un peu de cette grande cérémonie.
Oui, tout à fait. Pour la commune, c'est un site touristique, entre guillemets, s'il en est, qui nous permet aussi d'avoir une reconnaissance quand même au-delà de Marolles-les-Buis. Et puis pour moi, ça compte beaucoup parce que, en fait, au-delà du... Il y a le devoir de mémoire, il ne faut surtout pas oublier des événements qui ont eu lieu pendant cette période-là.
Oui, alors je voulais rajouter que pour les 70 ans de la stèle, nous avons refait une grande cérémonie en essayant de renouveler on peut appeler ça protocole. On a fait la messe au même endroit parce que près de Marolles-les-Buis, il y a une chapelle dans laquelle le prêtre c'était de Tiron, hein,
oui, de Tiron,
qui venait faire la messe pour les maquisards en douce, évidemment. Il y avait à côté la ferme où on faisait la cuisine. Donc, on a fait une cérémonie là-bas à la chapelle. Notre association a offert une plaque qui est maintenant affichée sur la chapelle. De Saint-Hilaire-des-Noyers. Et depuis cette cérémonie du 2017, il y a une messe qui est faite à la chapelle le premier dimanche de juillet.
Ouais.
En mémoire des maquisards et en mémoire de cette chapelle qui a accueilli les maquisards pendant la guerre. Et donc, nous, on a refait la cérémonie au maquis, ouais, en 2017, avec les officiels, avec des drapeaux, on a même recherché les textes qui avaient été dits en 1947, qu'on a fait écouter aux gens pour les mettre dans l'ambiance de ce qui s'était passé.
Parlons même un peu du site. Ce site n'est pas choisi au hasard. C'est un des endroits les plus sauvages du département, dans le Perche vallonné, où on n'en accède à l'époque que par des chemins d'exploitation agricole tout juste empirés. C'est de ce site que vont partir les différentes actions dans le cadre des plans alliés pour que la résistance intervienne efficacement contre l'occupant. Aujourd'hui, comme alors, au milieu de la clairière trône une pierre de grès qui est un message pour les générations qui sont à venir, passées et futures. Quelques mots gravés dans la pierre, avec l'indicatif qu'il s'agissait du mouvement Libération Nord, bien sûr, mais surtout cette phrase que je crois qui est lourde de conséquences, ici, vécurent en combattant l'ennemi des hommes qui croyaient simplement en la France. Un très beau message, je crois, et nos jeunes y sont très sensibles.
Ça, j'en suis sûr, Monsieur Brissard. Bah, parmi ces hommes, lorsqu'on se renseigne un peu, il y a une figure, notamment une figure locale aussi, qui ressort, c'est celle de Monsieur Gabriel Herbelin, qui est une figure assez forte du maquis. Quel est son rôle dans le maquis? C'est lui qui va monter? Comment monte-t-il?
Gabriel Herbelin, j'ai coutume de dire, c'était un homme de caractère et pas toujours de bon caractère. Mais ne fallait-il pas un homme de cette trempe pour diriger, car il l'a fait, les opérations, même s'il n'avait peut-être pas la compétence militaire nécessaire, il avait au moins le charisme. Et Gabriel Herbelin est un résistant de la première heure, puisque dès 1940, il fut interné au camp de Vov, libéré par quelque astuce dont il avait le secret, et il fut inquiété une deuxième fois, envoyé à la rue des Lys de Chartres en prison, libéré, soi-disant, parce que on n'a pas trop su pourquoi il avait été libéré. Ce que l'on peut savoir, c'est qu'il avait été dénoncé. Deuxième arrestation. Quant à la troisième arrestation, elle aura lieu en 1944, enfin elle n'aura pas lieu. Puisque lorsque les Allemands viennent frapper à la porte de sa maison, c'est son père qui va aller ouvrir pendant que lui s'esquive par l'arrière du bâtiment et devient un clandestin total. Gabriel Herbelin est une figure locale. Mais n'oublions pas que ce grade de capitaine qu'il avait était parfaitement légitime puisque le grade était donné en fonction du potentiel de son équipe, n'est-ce pas, qui correspondait à peu près à une compagnie militaire.
Et donc il va recruter ensuite ces 70 personnes qui
non,
forment le...
C'est, vous savez, le maquis de Plainville, je dirais presque, a une structure idéale pour mettre dans les livres d'histoire. Parce que si le maquis va être l'aboutissement de la résistance, la phase ultime de la résistance, il ne faut pas pour autant oublier ce qui s'est passé avant. Et le maquis va commencer à se réunir en juin 1944. Car l'objectif, d'après les plans alliés, c'est, autant que faire se peut, perturber, inquiéter, retarder les troupes allemandes qui vont monter vers le front normand après le débarquement. Le premier regroupement va se faire à la loupe. On ne peut pas penser que c'est différent. Eh bien non. À la loupe, après le 6 juin 1944. Les premiers résistants se réuniront dès le lendemain. Mais il va intervenir à la loupe un événement majeur qui aura lieu le 17 juin 1944, le bombardement de la loupe. On a beaucoup parlé de cet événement fâcheux en ce qui concerne les populations civiles, puisqu'il y aura 71 victimes, 56 seulement seront identifiées, car il y a beaucoup de gens qui sont réfugiés. Toujours est-il que la Loupe est un centre routier. L'objectif des Alliés, ce 17 juin 1944, et des formations de l'US Air Force en particulier, était de bloquer ces carrefours, évidemment, avec les dégâts collatéraux qu'on imagine. Et ces gens qui étaient réunis dans un premier maquis, au lieu dit les crottes, sur la commune de Frétigny, mais sont à ce moment-là invités à, d'abord, à s'enquérir de leurs proches. Il y en a qui ne retrouveront ni maison ni proche. Et on leur dit, restez chez vous, on vous rappellera. On vous rappellera, ça va être fait très progressivement. Et c'est là que Gabriel Herbelin a mené sur le site actuel du même acquis de Blainville, va dire « voilà un endroit idéal ». Gabriel Herbelin, qui est, disons, sous le commandement direct de Maurice Clavel, alias Sinclair, qui va regrouper quotidiennement, je dirais presque plutôt nuitamment, car on arrive au maquis, souvent par relation d'un tel ou d'un tel, mais on ne débouche pas dans la forêt du maquis comme ça par hasard. Donc le maquis va se constituer de cette façon, va s'organiser pour déjà récupérer des parachutages. Pour ne citer que des parachutages, on peut en citer un sur le terrain qui est situé proche du maquis. Sur ce parachutage, 5 tonnes de matériel seront larguées. Des matériels qui équipera les hommes du maquis, bien sûr, mais qui servira aussi, après transfert, et on imagine à quel risque, vers la région parisienne.
Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant Laval, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, nos amis du maquis.
Vous écoutez toujours Radio Grand Ciel. Si vous nous rejoignez, nous sommes sur le plateau de Ensemble. Nous accueillons trois invités qui nous parlent de l'association des anciens résistants et des amis du maquis de Blainville. Monsieur Yves Brissard, le président de l'association, Annette Brissard, qui est la secrétaire de l'association, et monsieur Martial Lecomte, le maire de Marolles-les-Buis. Donc, nous en étions arrivés à la formation du maquis de Blainville, donc, pour perturber les communications allemandes après le débarquement. Donc, le 9 juin au soir, il y a 4 groupes d'environ 25 hommes qui quittent le bois du maquis. Que vont faire ces hommes, monsieur Brissard ?
Ces hommes vont peut-être établir un coup d'éclat. Ça peut paraître paradoxal, mais sous les ordres de Clavel et surtout de Gabriel Herbelin, parce que Clavel, alias Sinclair, est arrivé dans le département, je dirais, assez tardivement. Assez tardivement, mais très officiellement, puisque nommé par le délégué départemental du CNR, Marc O'Neill. Clavel est donc le chef départemental de la résistance eurélienne. Même si certaines fractions de la résistance se refuseront à reconnaître son autorité, ceci étant une autre chose. Mais en ce qui nous concerne, le maquis de Blainville est organisé. Et que ce soit Herbelin ou Clavel, ce sont des hommes d'honneur. Je parle de Gabriel Herbelin, que j'ai bien connu, qui m'a souvent raconté pourquoi ils avaient tenté et réussi la libération de la ville. Nous sommes en août 1944, après la prise de Cherbourg et l'opération de percée du front, l'armée de Patton gagne du terrain. Même si les alliés gagnent du terrain, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Mais ce qu'on sait, c'est que lorsqu'ils approchent d'une agglomération et qu'ils rencontrent une résistance, ils emploient des moyens adaptés, à savoir bombardement, canonnade. Donc j'ai toujours entendu dire, et je maintiens ces propos, que s'ils ont décidé de libérer la ville de Nogent, le 11 août 1944, c'est après avoir mûrement réfléchi. D'une part, si on attend les Américains, on ne sait pas où ils sont, il risque d'y avoir, s'ils rencontrent une résistance, des dégâts collatéraux liés au bombardement aérien ou à la canonnade. D'une part. Et puis d'autre part, ce sont des hommes d'honneur, Clavel. Et ils ne vont pas laisser aux autres les risques de libérer la ville. C'est donc que Nogent sera un modèle, si je puis dire, de la libération des villes. Beaucoup d'autres suivront, avec plus ou moins de bonheur, que libération qui sera effective le 11 août 1944 au soir, sans que personne n'en soit bien conscient, et le 12 août, samedi 12 août 1944, le premier drapeau de la résistance, confectionné avec de la voilure de parachute par trois Nogentaises, flottera sur le balcon de l'hôtel de ville.
Merci beaucoup pour cette histoire. Donc, après, le maquis de Plainville partira libérer Chartres en partie.
Oui, alors, il y a une suite. Une suite qui va d'ailleurs modifier la vie de certains, mais bien au-delà. C'est la libération de Chartres. Alors, Clavel, commandant Saint-Clair, donc, va se trouver là devant un dilemme. Il n'est pas militaire. Donc, ses connaissances en matière de stratégie sont assez limitées. Il passera d'ailleurs la main au commandant Grimat, qui est un militaire, lui, et les hommes de Nogent vont participer, pas en totalité, mais en grand nombre, à la libération de Chartres. Certains suivront la colonne Leclerc, qui suit le général de Gaulle, arrêté à Nogent, pour un salut à la résistance le 16 août, général de Gaulle qui va en direction de Rambouillet et qui sera donc escorté par des éléments de la 2e DB. Et ensuite, il y aura des résistants qui iront jusqu'à la libération de Paris. Et ce sont des résistants de Plainville qui hisseront le drapeau tricolore sur le musée de l'air où va prendre ses fonctions le général Valla.
Merci beaucoup pour cette histoire. On sent que vous êtes vraiment animé par la passion et je vous remercie de partager ces moments avec nous à l'antenne. Juste quelques questions pratiques pour nos auditeurs qui, j'en suis persuadé, seront très intéressés pour venir voir les lieux mêmes du maquis de Plainville. Vous organisez dans les mois à venir, vous avez prévu peut-être...
Comme toute activité, nous avons été perturbés par la crise sanitaire. Mais nous avions pour habitude de recevoir toutes les nouvelles formations d'engagés dans la sécurité civile, nos voisins en quelque sorte. Nous avons reçu depuis 20 ans tous les préfets, sous-préfets du département. C'est donc une reconnaissance, je crois, hormis les visites et les élèves des lycées et collèges que nous accueillons sur rendez-vous. Trois dimanches après-midi sont ouverts à la visite libre, vous pouvez rester 10 minutes ou 4 heures, par an. Une en juin, un dimanche après-midi en juin, une en juillet, et la journée du patrimoine qui aura lieu dimanche prochain, 19 septembre.
Merci à vous. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la page Facebook de l'association des anciens résistants et amis du maquis de Plainville. Voilà, c'est la page Maquis de Plainville, c'est cela, sur Facebook. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel et tout de suite, la suite des programmes.
Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Bravant Laval, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Dès le jour du débarquement, dès l'aurore de la victoire, ils ont frappé les Allemands. en plein jour, en pleine gloire, se joignant à tous leurs amis, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont les effectifs, c'est l'armée de la France. Contre le nazi, des miliciens sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien, des forêts aux barricades. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, je les